matin du 2 octobre, Neville n'avait toujours pas dormi. Deux nuits blanches de suite. C'était terriblement éprouvant pour cet homme de 68 ans. Si seulement il avait pu se rassurer quant à la nuit suivante. Mais il n'y voyait pas l'issue de son problème. Il n'y aurait donc pas de terme à son insomnie. Le 4 octobre, je serai tellement épuisée que je ne serai pas en état ni de recevoir, ni de tuer, pensait-il avec consternation. Il se morfondait dans son bureau, le visage bouffi de fatigue, quand il entendit frapper à la porte. « Entrez !» À sa surprise, il vit apparaître sérieuse. « Papa, je peux te parler ?»« Bien sûr. Assieds-toi, ma chérie. » C'était la première fois que la jeune fille demandait à être reçue dans le bureau de son père pour un entretien. Henri sourit. « Quand la voyante t'a prédit que tu allais tuer l'un de tes invités, j'ai tout entendu. » Neville demeura abasourdi. J'étais dans la pièce d'à côté et je faisais semblant de dormir. Donc je sais ce qui te préoccupe. Je ne suis pas préoccupée. Tu as perdu le sommeil, papa. Ça se voit. J'ai toujours eu des insomnies. Rien de commun. Et j'ai intercepté ta conversation téléphonique avec Évrard. En voilà des manières. Je sais. Cas de force majeure. Tu as besoin d'aide, papa. Je n'accorde aucun crédit aux prédictions de cet idiote. Ce n'est pas vrai. Tu n'arrêtes pas de te demander qui tu vas tuer. Tu es même allé chercher le fusil de chasse de grand-père. Tu m'espionnes. Cas de force majeure. Je répète. Bon. Quelle aide me proposes-tu ? Il y a quelqu'un que tu pourrais tuer à la garden party. Une personne à laquelle tu n'as pas pensé. Je t'écoute. Moi. Ce fut dit si légèrement que le comte pouffa.
Voilà une idée brillante, ma chérie. Tu m'as d'une aide précieuse.
Je suis sérieuse. Tu fais de l'humour à 50 centimes en plus ? Cela suffit. Va-t'en, j'ai autre chose à faire que de t'écouter. Papa, il faut que tu me tues. Qu'est-ce qui te prend ? Depuis que j'ai entendu la prédiction, je n'arrête pas d'y penser. Je me mets à ta place, ce doit être infernal pour toi. J'ai la solution. Je te croyais plus adulte et plus intelligente que cela. Toi aussi, tu accordes foi à cette prédiction, papa. L'intelligence n'est pas en cause. Comment peux-tu imaginer un quart de seconde que je te tue, sérieuse ?
Parce que j'en ai besoin.
Henri ouvrit des yeux horrifiés. Qu'est-ce que tu racontes ?
Je ne vais pas bien, papa.
Tu es malade ?
Non. Depuis quelques années, dans ma tête, je ne vais pas bien.
Nous avons remarqué. Cela s'appelle l'adolescence. Ce ne sera pas éternel.
Non, ce n'est pas ça. Oui, je suis une adolescente. Mais rappelle-toi, j'ai commencé à aller mal avant la puberté.
C'était les prémices, les tourments débutent avant, c'est normal. La jeune fille soupira.
Alors vous êtes vraiment tous aveugles à ce point.
De qui parles-tu ?
De cette famille.
Au fond, ça m'arrange. Cette cécité générale. Je ne comprends pas un mot de ce que tu racontes.
C'est bien ce que je disais.
Ce que j'entends, c'est que tu ne vas pas bien. La voyante avait peut-être raison, finalement. Tu devrais recevoir une aide psychologique.
Oui. Tue-moi.
Tu devrais voir quelqu'un. Il y a des psys à Arlon.
Je refuse. Je ne te demande pas ton avis. Devant un psy comme devant qui que ce soit, je ne dirai rien.
Pourquoi ?
Parler fait mal.
Qu'en sais-tu ? Tu n'as jamais essayé.
J'ai essayé en moi.
C'est très différent.
En effet, c'est moins douloureux et pourtant, c'est déjà insoutenable. Hors de question que je souffre davantage.
Que se passe-t-il ?
Je suis épouvantée. Tue-moi, papa. Tu ferais une bonne action.
Ma chérie, mets-toi bien dans la tête que je ne te tuerai jamais.
Il faut que je meure. Il le faut.
S'il le fallait vraiment, tu te suiciderais.
C'est ça que tu veux ?
Non, je n'ai pas dit cela. J'ai dit que tu as le désir de vivre puisque tu ne penses pas au suicide.
Il serait mille fois plus juste que ce soit toi qui me tues.
N'importe quoi.
Tu as largement contribué à ma venue au monde. Il serait juste que tu l'en débarrasses.
Avec une logique pareille, c'est plutôt à ta mère que tu devrais le demander.
Non. Maman a peiné à ma naissance. L'équité voudrait que tu peines pour me donner la mort. Tu délires. Pauvre enfant, je ne me rendais pas compte que ta crise d'adolescence était à ce point aiguë. C'est parce que je ne parle guère. Je te préférais muette. Là, tu parles, c'est désastreux.
Dans ma tête, c'est tout le temps comme ça depuis plus de 4 ans.
Et ce n'est pas le pire. Le pire, c'est que je ne ressens plus rien depuis mes 12 ans et demi. Et quand je dis rien, c'est rien.
Mes 5 sens fonctionnent très bien. J'entends, je vois, j'ai le goût, l'odorat, le toucher. Mais je n'éprouve aucune des émotions qui y sont liées. Tu n'as pas idée de l'enfer que je vis. Bernanos a raison. L'enfer, c'est le froid. J'habite à demeure le zéro absolu.
La nuit, dans la forêt,
c'était dans l'espoir d'éprouver le vrai froid du corps. Je l'ai éprouvé, mais je n'ai pas ressenti l'angoisse animale que ça aurait dû éveiller en moi.
Tu m'en as pourtant si bien parlé. L'odeur de la forêt, le chevreuil, le saisissement du froid qui monte.
Il faut croire qu'on parle bien de ce qu'on ne ressent pas. Je me disais, c'est beau. Je voyais que ce l'était. Et ça n'atteignait pas ma peau. Quand le froid a commencé à me faire souffrir, je me disais, réagis, pars, danse, bouge puisque c'est intolérable. Mais mon corps demeurait inerte. Il aurait mieux valu que je meure cette nuit-là.
Le froid de fin septembre ne t'aurait sans doute pas tué.
Du coup, c'est à toi de t'en charger.
La petite fille n'y compte pas. Je vais t'emmener voir un médecin. Il y a sûrement quelque chose à faire pour ton problème.
Je suis déjà allée voir un médecin, papa. Je lui ai dit ce que je t'ai dit. Il a souri et il a répondu.
Vous avez 17 ans, mademoiselle. Vous avez besoin de tomber amoureuse. Ce qui ne saurait tarder, rassurez-vous. Vous éprouverez beaucoup de choses, alors.
Qui est cet abruti ?
Un docteur comme les autres. Le comble, c'est que j'ai essayé sa solution. J'ai envisagé tous les êtres dont il était possible de s'éprendre, y compris toi. Il ne s'est rien passé.
Tant mieux.
Je pense qu'il est invraisemblable de tomber amoureuse quand même la douleur ne donne aucun résultat.
Tu parles du froid de la nuit en forêt ?
Pas seulement. J'ai essayé les souffrances classiques. La lame d'un couteau enfoncée dans l'avant-bras. Ça faisait mal et ça ne suscitait rien de plus. J'ai même profité d'une atroce rage de dents que je vous ai cachée dans l'espoir d'être enfin atteinte. Tu comprends l'attente que je place dans le mot « atteinte » ?
Rien. Tu n'étais pas ainsi quand tu étais petite.
Tu te souviens ? Je ressentais tout plus fort que tout le monde. L'odeur du matin me mettait dans un tel état que je me levais chaque jour à l'aube. J'étais incapable d'écouter de la musique sans danser, de manger du chocolat sans trépigner de plaisir. Que s'est-il passé ?
La circonstance importe peu. Silence. Tu n'as pas l'intention d'en dire plus ?
En effet.
Moi, je veux en savoir davantage.
Tu le crois ? Mais ce n'est pas vrai.
Parle.
J'ai le droit de me taire.
Dis-moi au moins quelque chose. Suis-je un mauvais père ?
Tu es un bon père, ne t'inquiète pas.
Malgré toi, tu m'as inculqué dès l'enfance un art qui m'ennuie. Récemment, j'ai lu Proust. Il parle de ce qu'il appelle le donjuanisme de l'aristocratie. C'est une bonne façon de le dire.
Je n'ai rien d'un donjuan.
Ce n'est pas ce que ça signifie. C'est comme ça que tu es avec tout le monde. Tu séduis.
C'est très beau. Tu ne cherches pas à obtenir quoi que ce soit. Tu séduis pour l'unique plaisir de donner à l'autre l'impression qu'il mérite tant d'efforts.
Ta séduction est une générosité. Je t'ai toujours vue à l'œuvre. J'en ai forcément attrapé quelque chose. Le problème, c'est que l'humanité n'est pas noble. Et je n'emploie pas cet adjectif au sens social. De nos jours, dans le monde réel, qui n'est pas le tien, papa.
Quand une gosse de 12 ans se conduit sans le savoir avec cet art de la séduction qui lui vient d'un père trop courtois, c'est interprété de façon atroce. Et ça entraîne des conséquences.
Je t'écoute.
C'est le moment où, dans les films américains, l'héroïne dit avec raison
« You don't want to know ».
Tu m'agaces avec tes citations à 3,50 €.
Tu as raison. Je m'agace moi-même.
Si tu savais comme j'en ai assez de moi.
Eh bien, change. À ton âge, on peut changer.
Je te jure que j'ai essayé. Depuis des années, j'ai lu et relu les meilleurs livres, les classiques et les modernes, dans l'espoir d'y puiser une solution miraculeuse. J'ai trouvé des merveilles. Mais rien qui m'ait touchée. Toujours ce rempart de glace entre moi et moi. Je voudrais tant qu'il cède.
Ce n'est pas en disant qu'on change. Il faut vivre.
Quelle vie as-tu prévue pour moi, papa? Les mêmes fêtes que celles où vont Oreste et Electre? Où je n'aurai ni leur splendeur, ni leur grâce? De toute façon, ces rallies ne m'intéressent pas. Ni me marier à plus forte raison avec un de ces godelureaux. D'ailleurs, aucun ne voudrait de moi. Le monde est bien fait parfois.
Tu es intelligente. Tu étudieras à l'université.
À quelle fin?
Pour avoir un métier passionnant.
Quand on n'est jamais ému, on n'est jamais passionné.
Que voudrais-tu? Quel est le rêve que tu aimerais réaliser?
Je n'ai pas de rêve. Je ne veux rien. Sinon que ça s'arrête. Ça, je le veux ardemment.
Qui te dit que c'est si bien, la mort?
Je n'en sais rien. Au moins, c'est autre chose.
Peut-être. C'est peut-être juste pareil.
Parle autant que tu veux, papa. Tu ne peux rien contre cette obsession. Me la donneras-tu, oui ou non?
La mort? Jamais. Je suis ton père et je t'aime.
Agamemnon était le père d'Iphigénie et il l'aimait. Et il la tuait pourtant.
Comme tu le sais, je ne t'ai pas appelée Iphigénie. Tire-en les conséquences. Il faut croire que quand on a appelé ses aînés Oreste et Electre, la pulsion est si forte que, quel que soit le prénom de la troisième, le destin se met en branle. N'importe quoi. Je ne ressens aucune impulsion de ce genre.
Le destin agit, même si tu ne le ressens pas.
Il n'y a pas de destin. Alors pourquoi crois-tu à la prédiction de Madame Portenduère?
Tu y crois au point de lui obéir, au point de chercher une victime idéale parmi tes invités. Tu vas au-devant d'un désastre, papa. Évrard est formel. Tu ne peux pas préméditer le meurtre d'un invité, si odieux soit-il. Que vas-tu faire?
Je ne sais pas. Cela ne te regarde pas.
Si, ça me regarde. Moi non plus, je ne dors plus depuis 2 jours. J'ai examiné toutes les possibilités. Crois-moi, pas d'autre solution que celle que je t'apporte sur un plateau.
Je refuse.
Je reprends ta logique, papa. Celle des précédents. Curieuse logique d'ailleurs, mais c'est la tienne. Tu n'appelleras pas Évrard pour savoir s'il existe un précédent en matière d'infanticide dans notre milieu. Moi, je te le dis, il y en a un. Agamemnon et Iphigénie. Une excellente famille, comme tu n'as cessé de le répéter.
Tu as vu comme ce précédent donne envie de le suivre. Il n'arrive que des horreurs au père infanticide.
L'horreur, en effet, mais pas l'indignité. Si tu me tues au cours de la garden party, tout le monde verra en toi un monstre, mais personne ne jugera ton acte ignoble au sens étymologique du terme. L'infanticide, c'est abject. Ce n'est pas impoli. Tu n'auras pas commis d'impair. On te connaîtra encore, ainsi que ta femme et tes enfants.
La belle affaire.
Oui, la belle affaire. C'est ce qui t'importe le plus. Tu ne dois pas seulement être un bon père envers moi. Tu dois aussi être un bon père envers Oreste et Electre et un bon mari envers maman. Si tu tues un invité, on ne les connaîtra plus. Si tu me tues, on continuera de les recevoir. Je veux également être un bon père envers toi, figure-toi. Je t'offre une sacrée occasion de l'être. Être un bon père, ce n'est pas obéir à l'ordre insensé d'une gamine qui se prend pour Antigone.
Antigone ?
Rien à voir. Antigone aimait la vie, pas moi.
Bref, je ne t'obéirai pas.
Tu n'as pas encore compris que tu n'as pas le choix, papa. C'est ça, le destin. Même si c'était vrai, je serais incapable d'un tel acte.
Tu crois qu'Agamemnon s'en sentait capable? Tu ne crois pas que tout en lui s'y refusait?
Pourtant, son cas était pire que le tien. Iphigénie ne voulait pas mourir.
Tu me manipules. Tu es monstrueuse.
Raison de plus pour m'assassiner. Tu as réponse à tout. Comment as-tu prévu que je procède?
Comme tu comptais le faire.
Avec le fusil de chasse.
Tirer à la 22 longs rifles sur la tête de ma fille? C'est impossible.
Il faudra bien. Préfères-tu me précipiter du haut de la tour d'angle?
Non. Que le pluvier reste en dehors de cette abomination.
Nous ne possédons pas de poison. Tu ne pourras pas jouer au Borgia.
Viserai-je du haut de la tour?
Trop risqué. Tu pourrais toucher quelqu'un d'autre. Je ne crois pas que tu sois un excellent tireur, papa. En fin d'après-midi, tu iras chercher la carabine. Je serai dans le jardin avec les invités. Tu reviendras, tu fendras la foule, et sans perdre de temps, tu me tireras dessus à bout portant. Impensable.
Il faudra bien. Chaque fois qu'une objection surgira dans ton esprit, répète-toi cette formule. Il faudra bien. Aucune dérogation n'est envisageable.
Tu ne m'aimes donc pas?
Si, je t'aime.
Si tu m'aimais, tu ne m'ordonnerais pas d'accomplir cette abjection.
C'est précisément parce que je t'aime que je t'y enjoins. Pour toi, c'est l'unique solution.
Et pour toi, qu'est-ce que ce sera?
Oh, moi, l'idée d'être enfin atteinte par quelque chose suffit à mon bonheur. Si tu savais comme il est pénible de n'être atteinte par rien.
Ma petite fille, nous sommes le 2 octobre.
Je suis censée te...
Ton plan est censé se dérouler le 4 octobre.
Comment vivre jusque-là? N'y pense pas.
Concentre-toi, comme chaque année, sur les préparatifs de la garden party.
Comment veux-tu que je n'y pense pas? Agamemnon, lui aussi, a su à l'avance qu'il devrait sacrifier sa fille chérie. Il ne devait pas être si différent de toi.
Lui, au moins, c'était un sacrifice.
Si ça peut t'aider, dis-toi que c'en est un. À la réflexion, c'est vrai. Tu vas sacrifier ta fille.
À quelle cause vais-je te sacrifier?
À la bonne marche du monde. Au devoir qui t'habite depuis que tu es née. À l'honneur qui consiste à respecter ses invités. À la mémoire de tes ancêtres qui se sont battus pour le conserver, quel que soit le prix à payer.
Quelle barbarie!
Allons. Tu as toujours dit le plus grand bien de ceux qui ne dérogeaient pas à leur charge. Tu peux être sûr qu'Agamemnon se répétait bravement combien il le fallait et combien il souffrait de cette certitude.
Henri cacha son visage dans ses mains. Sérieux reprit la parole.
Veux-tu que je te signe une lettre certifiant mon accord?
As-tu perdu le sens commun?
Au contraire! Je ne veux pas que me tuer te condamne.
Et moi, je le veux. Pour la première fois, je suis en faveur du rétablissement de la peine de mort, rien que pour moi après.
Papa, après, tu te diras que tu m'as offert ce dont j'avais besoin. Je te considère comme le meilleur des pères de l'univers parce que tu acceptes de me délivrer de cette gangue de néant dans laquelle j'étouffe. N'oublie pas ce que tu vas commettre. Ce sera un acte d'amour envers moi.
Tais-toi. Si tu continues de parler, je vais te haïr. Et si je te hais, je n'aurai pas le courage de te tuer.
La jeune fille sourit. Cette ultime phrase la rassura. Son père irait jusqu'au bout.